L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Ah mais attends, on est le premier jeudi du mois.
Ah oui, c'est l'actuel.
L'émission féministe pour il, elle et elle.
This time, we will do it by ourselves.
Les luttes sont toujours des luttes simultanées.
L'acte de procréation est un acte de liberté.
Non una, dimeno, pas une de moins.
Que l'aborto sea legal.
Bonjour tous, et oui, c'est le retour de l'actuel sur les ondes de Radio Larzac, c'est la deuxième saison et je suis toujours avec Carole du planning familial de Millau. Salut Carole.
Salut Sophia, salut tout le monde.
Donc aujourd'hui, de quoi on parle? Eh ben,
de l'autodéfense féministe.
C'est ça, l'autodéfense féministe. Pourquoi ce sujet? Eh ben, parce que c'est un moyen de se défendre contre les violences sexistes et sexuelles. C'est aussi un moyen de découvrir une puissance d'agir, une puissance des corps minorisés qui est souvent niée dans notre société. Et donc, pour en parler, en fin de mission, Carole va nous présenter un livre. C'est le guide d'autodéfense féministe pour ados, Basta.
Tout à fait. Et avant cela, vous allez entendre Jo Dassonville de l'association Échappée Belle en Aveyron, qui pratique l'autodéfense et qui a été interrogée par Sophia à propos de sa pratique qu'elle fait en milieu rural.
Tout à fait.
Et tout de suite, avant ça, c'est la revue de presse.
Radio Larzac vous présente la revue de presse, des pages aux voix.
Nous nous sommes quittés en juin dernier dans cette émission en parlant de cinéma et du festival de Cannes où Justine Triet avait remporté la Palme d'Or pour son film Anatomie d'une chute et elle avait aussi été critiquée pour son discours contre la réforme des retraites. Eh bien, l'actualité cinéma n'est pas très réjouissante en ce qui concerne le féminisme. La rentrée cinéma a été marquée par la Mostra de Venise, le festival international de cinéma où étaient invités trois réalisateurs accusés de violences sexuelles: Luc Besson, Romain Polanski et Woody Allen. Ouais, c'est vraiment la triade qu'il fallait pas inviter. Enfin bref, face aux critiques que le directeur de la Mostra Alberto Barbera a reçues, eh bien il a justifié l'invitation de ces trois cinéastes avec toujours la même rengaine. Est-ce que tu peux l'imaginer, Carole?
Il faut séparer l'homme de l'artiste.
Exactement.
Waouh.
Donc on ne pouvait pas attendre de mieux. C'est Le Monde qui rapporte cette interview. Mais heureusement que les collectifs féministes sont là. Ils se sont fait entendre avec une mobilisation devant le tapis rouge du festival. IL ont écrit sur leur corps « No rape culture », donc « Stop à la culture du viol ». Il et elle ont malheureusement été agressés par les forces de l'ordre et par le personnel de sécurité de la Mostra. Et le collectif Nonuna Dimeno écrit donc après sur les réseaux: nous allons continuer de lutter pour une culture du consentement et pour construire des espaces sans violence d'État, patriarcale et de genre.
Merci à elle.
Oui, merci à Yeltz.
Yes. Yes.
Et on revient en France pour parler de quelque chose d'un peu plus réjouissant, c'est le congé menstruel. Ouest France reporte que l'université d'Angers est la première université en France à avoir autorisé un congé menstruel. L'université a modifié en effet la charte des examens pour y intégrer une autorisation d'absence spéciale de 10 jours par an pour congé menstruel. Justement, ce type d'absence peut ne pas faire l'objet d'un avis médical. Il suffit une simple déclaration à mettre en ligne dans un espace numérique dédié. L'idée du congé menstruel fait son chemin en France. En mars dernier, par exemple, c'était la ville de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, qui avait lancé l'expérimentation d'un congé de ce type pour ses agentes. Et après, en septembre, c'est encore Ouest-France qui nous le rappelle, la région Nouvelle-Aquitaine veut mettre en place un dispositif similaire et je cite les agentes de la région qui disent espérer encourager le gouvernement à apporter une réponse juridique nationale à cet enjeu de santé publique. Pour continuer, on passe à une actualité de la semaine dernière. Le 28 septembre, c'était la journée mondiale pour le droit à l'IVG. Libération, à cette occasion, rappelle que ça fait plus de 6 mois que Emmanuel Macron a exprimé son souhait d'inscrire dans la Constitution cette liberté de recourir à une IVG. On en avait parlé d'ailleurs dans cette émission. Des promesses que vous allez l'imaginer sont restées sans suite finalement. Il n'y a aucun calendrier. Et c'est d'ailleurs la crainte qu'on avait exprimée lors de cette émission.
Oui, tout à fait. Moi, c'est assez habituel que les politiciens utilisent ce type d'arnaque.
Tout à fait. Et bien, à l'occasion de cette journée mondiale, la Commission nationale consultative des droits humains vient rappeler l'urgence de mettre fin à ce flou législatif. C'est une institution indépendante qui a adopté fin septembre un avis appelant à protéger ce droit humain de portée universelle en l'inscrivant sein de lait dans la Constitution. La Fondation des femmes, quant à elle, a réagi également dans un communiqué où, je les cite, se félicite de la volonté d'avancer du président de la République tout en avertissant qu'elle sera attentive à la mise en œuvre de cette annonce et à la rédaction retenue. Pouvoir maîtriser sa fécondité est une condition de notre vivre ensemble. Être libre est une condition de l'égalité entre femmes et hommes. Et décider pour son propre corps est une condition de la démocratie. Fin de citation. La rentrée est marquée aussi par la sortie de la revue La Déferlante. C'est la revue des révolutions féministes. Pour ce trimestre, elle est consacrée au thème de l'habité. On peut y lire une interview croisée entre Mona Chollet et Liv Stromquist. On peut lire un billet très intéressant sur le sexisme dans les squats et un reportage sur l'auberge marseillaise, une ancienne auberge de jeunesse qui a été reconvertie en lieu d'accueil pour les femmes et les personnes victimes de violences de genre et pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Et c'est d'ailleurs un reportage signé Mathilde Bléza qui a aussi écrit un livre sur l'autodéfense féministe. Donc ça fait le lien avec notre émission. Et j'aimerais conclure cette revue de presse par une actualité qui date déjà d'il y a 3 mois. Mais je viens de la prendre justement dans une page d'autodéfense féministe. Le mercredi 17 mai, 2 salariés de l'association Griselidis se sont fait violemment agresser pendant une tournée de prévention et d'information auprès de travailleuses du sexe à Albi. L'association a réagi en écrivant un communiqué de presse où ils et elles écrivent « Notre travail d'aller vers de prévention, de santé et de soutien aux travailleurs et travailleuses du sexe est primordial. Il ne doit pas être un métier à risque. Subir de telles attaques violentes est inacceptable. Les associations de santé communautaire ne peuvent exercer leur mission dans de telles conditions. » Donc nous exprimons bien évidemment tout notre soutien à l'association Griselidis, que d'ailleurs nous avions interrogé dans un épisode de l'actuel, c'était en avril dernier, et c'est toujours écoutable sur notre site.
Merci pour cette chouette revue de presse. Je fais un petit clin d'œil à Lucille Gauthier, qui est la personne qui fait les dessins dans La Déferlante,
ah oui,
et que j'adore. Et maintenant, je vais vous passer un petit morceau de musique. En fait, je suis passée à côté de Beyoncé. C'est hyper bizarre comme truc, mais j'ai vraiment découvert il y a 4 ans seulement. Et dont ce morceau qui a fait une tornade sur le monde entier, Run the World Girls, qui est sorti à 12 ans par Beyoncé. Et j'adore aller sur Internet et essayer d'écouter plein de covers de morceaux géniaux. Et donc là, je vous ai sélectionné un petit cover de Anne-Marie Fox, qui est états-unienne de Beyoncé. Girls, we run this mother. Girls, 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 girls, who run the world. 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 Girls, girls, who run this mother. Hey, yeah, 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 who run the world. Girls, girls, who run the world. Girls, girls, who run the world. Girls, girls, who run the world. Girls. Some of them men think they freak this like we do, but no they don't. Make your chick come at they neck, disrespect us, no they won't. This goes out to all my girls that's in the club rocking the latest. Who could buy it for themselves and get more money later? I think I need a barber. None of these bitches can fade me. I'm so good with this, I remind you I'm so hood with this. Boy, I'm just playing. Come here, baby. Hope you still like me if you hate me. My persuasion can build a nation in this
for me. Who run the world, girls? 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 Who run this motherhead? Who run this motherhead? Who run this motherhead? Who run this motherhead? Who run the world, girls? Who run the world, girls? Who run the world, girls? Who run the world, girls?
On est de retour dans l'actuel sur Radio Larzac et on parle d'autodéfense féministe. Et pour introduire ce sujet, eh bien, je m'adresse à toi, Carole, parce que je sais que tu pratiques depuis quelques années déjà l'autodéfense féministe et tu rêves de devenir formatrice à ton tour. Donc pour commencer, bah, qu'est-ce qui t'a amené vers cette pratique de l'autodéfense ?
Un peu le hasard. J'avais des amis qui avaient fait un stage d'autodéfense, là où elles habitent, et elles m'ont expliqué ce que c'était. J'ai dit, je vais m'inscrire tout de suite. Et j'ai pu y accéder, ce qui n'est pas très simple, en fait, d'avoir des... parce qu'il y en a peu. Et donc, j'ai pu m'inscrire, et là, ça a été une révélation. Mais ça fait qu'un an, en fait.
Un an et demi. mais en tout cas, tu l'as pratiqué de manière régulière depuis ?
Tout à fait. Après le stage de 2 jours, j'ai pratiqué une fois par mois pendant 3 heures. Et ça paraît peu, mais c'était vraiment à chaque fois tellement intense que ouais, c'était bien. Mais là, pour l'instant, c'est en pause, mais ça reprenne.
Oui, et donc, qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette pratique qui te donne envie de continuer, de la transmettre à ton tour un jour ?
Eh ben d'abord, j'avais toujours été intéressée de savoir me défendre, tout simplement. Et une fois, je me suis tournée vers le Krav Maga et j'ai vécu une scène de violence en allant à ce cours-là. Donc, je me suis dit, waouh, mais en fait, ça n'existe peut-être pas, en fait, les trucs d'autodéfense pour moi. Et en fait, là, l'avantage, c'est que en fait, c'est des vrais cours d'autodéfense qui sont organisés autour des savoirs sociologiques féministes sur les vraies conditions que vivent les personnes minorisées, que ce soit les femmes ou les personnes trans ou les personnes grosses. Enfin, ça dépend de dans quel groupe on se situe. Et donc, l'autodéfense est organisée pour créer voilà, une vraie défense. Genre, par exemple, dans les cours d'autodéfense normaux, on va se défendre contre l'étranger. Donc, c'est une vision un peu fasciste, d'ailleurs, de contre qui on devrait se défendre. Et là, en fait, vu que toutes les violences se font essentiellement par les personnes qu'on connaît, eh ben, ils nous apprennent plutôt à gérer la sidération et à gérer des situations réalistes et réelles, voilà, de violences qu'on peut vivre, par exemple, au sein des couples, se faire forcer à avoir un rapport sexuel, des choses comme ça.
Et en quoi, pour toi, l'autodéfense a été un moyen de retrouver une puissance d'agir, une puissance de ton corps, si ça a été le cas ?
Oui, pour le corps, ça a été vraiment le cas. J'ai le sentiment aujourd'hui que je peux... stopper l'agissement de quelqu'un avec mon corps, voilà. Et donc, si l'agissement est malveillant, je peux le mettre hors d'état de nuire avec mon petit corps tout frêle, voilà.
Et donc, tu pratiques l'autodéfense en milieu rural, là où tu habites. Est-ce que c'est vraiment plus dur de trouver des stages ou est-ce qu'au contraire, les réseaux, eh bien, ils sont encore plus actifs vu qu'on est en milieu rural par rapport à la métropole ?
Par rapport à Paris ou les autres villes, il y a quand même beaucoup plus de stages quand même dans les villes, plus de possibilités de s'inscrire. Ici, il y a quand même beaucoup de réseaux de lutte, donc il y a aussi des stages, mais je pense qu'il y a des endroits en France, en ruralité, où il n'y a rien du tout. Et quand il y a des stages en ruralité, ben, c'est quand même très vite complet, parce que là, sur le territoire de l'Aveyron, on ne connaît qu'une formatrice. Il y en a après à Montpellier, à Toulouse, donc c'est les villes. Et sinon, là où je suis, c'est plutôt vers Saint-Antonin-de-Nobleval. Et là, il y en a une aussi, mais encore là, en ce moment, elle ne pratique plus, par exemple.
Et qu'est-ce que tu dirais à une auditrice ou un auditeur qui souhaiterait se mettre à cette pratique ?
Je dirais que... Qu'il faut y aller parce que donc il y a ce truc que ça t'amène au corps où on se sent enfin en sécurité quoi, partout. Ça, c'est assez agréable quand même. Et aussi, c'est un espace de sororité absolue, de respect ou d'horizontalité où on peut enfin aussi parler de ce qu'on ressent en tant que personne concernée. Sans devoir lancer un débat sur le patriarcat et passer tout de suite pour la féministe science. Enfin, je veux dire, c'est quand même souvent ce qui se passe normalement. Et là, du coup, c'est en fait, en plus de savoir se défendre, on se fait des copines et des copains.
Oui, et d'ailleurs, ça fait le lien avec ce que m'a raconté Jo, qui est donc formatrice d'autodéfense féministe à un Aveyron de l'association L'Échappée Belle. Elle est active surtout en Nord-Aveyron, mais dans tout le département aussi. Et elle a fondé cette association avec une autre personne, qui est donc l'association d'entraide et de lutte contre les violences sexistes pour les femmes et les personnes de genre minorisées. Et elle parle vraiment de l'autodéfense comme une rencontre et comme un espace de sororité. Et donc, je vous propose d'écouter son interview tout de suite. Salut Jo.
Salut.
Pour commencer, toi qui es formatrice donc à un autodéfense féministe, comment tu définirais cette pratique? Quelle est ta définition personnelle?
Pour moi, en fait, l'autodéfense féministe, c'est d'abord s'organiser et réfléchir ensemble aux moyens et aux ressources qu'on a pour nous dégager des situations inconfortables, des situations dérangeantes ou violentes qu'on peut subir au quotidien. Pour moi, c'est vraiment prendre conscience de notre puissance d'agir, de pouvoir s'en servir et assurer nous-mêmes notre mise à l'abri, quoi, notre mise en sécurité. Voilà, on le dit souvent, donc quand on a été socialisée en tant que femme, on n'a pas vraiment appris à le faire. Pour moi, pratiquer un stage, c'est pouvoir se reconnecter avec nos capacités à mieux nous connaître et à oser réagir face aux différentes violences auxquelles on est exposé, quoi. Et de pouvoir le faire surtout avec des outils qu'on choisit et qui nous ressemblent. Donc voilà, pour moi, c'est d'abord une rencontre, mais la rencontre avec son mental, avec son propre corps et avec toutes les ressources que les personnes qui seront présentes, elles vont apporter.
Toi, donc, tu es formatrice, donc tu as suivi une formation pour devenir formatrice à ton tour. Et qu'est-ce que cette pratique a changé dans ton corps, mais aussi tu le mentionnais, c'est important dans l'autodéfense féministe, le mental aussi dans ton parcours en fait de femme.
Par rapport au parcours, mon parcours à moi vers l'autodéfense féministe, en fait, il s'est fait assez lentement, mais plutôt naturellement, si je peux dire ça comme ça. J'ai connu cette pratique assez tard. C'est-à-dire que à la base, j'étais plutôt proche des milieux autonomes et il y avait un petit club de boxe qui s'était organisé avec des potes qui étaient en grande majorité des mexis. Et en fait, je voulais y participer parce que je cherchais de la force. Enfin, voilà, j'avais envie d'avoir plus de confiance. Mais en fait, je me suis rendu compte que je me sentais pas du tout à ma place et puis que c'était dur. C'était technique, c'était éprouvant. Et voilà, donc souvent je revenais déçue et vraiment pas à la hauteur. Ensuite, je suis arrivée en Aveyron quelques années après et j'ai à nouveau eu envie de me confronter corporellement aux autres personnes, enfin à d'autres personnes, à toucher ma limite physique et me sentir moins vulnérable aussi en société. Et à nouveau, je me suis inscrite dans un club de boxe. Et encore une fois, ça l'a pas fait. Je me sentais hyper mal à l'aise. Et en plus, là, il y avait des expressions rabaissantes. Il y a même des gars qui refusaient de boxer avec une fille, pour reprendre les termes. Donc, moi, je cherchais à me renforcer mentalement, physiquement. Et puis surtout, à me décharger. Et je revenais à plat. Et enfin, voilà, j'étais encore plus en colère en revenant qu'en y allant, quoi. Et ensuite, en fait, en parallèle, j'ai participé à des rencontres autonomes de boxe qui étaient à Toulouse. Et là, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de l'autodéfense féministe. Donc ça, c'était en 2016. Et j'avais jamais entendu parler de cette pratique. Donc voilà, j'ai eu super envie de la découvrir. Et pendant ce temps-là, en fait, dans mon village, en Aveyron, j'ai rencontré des personnes avec qui on commençait à échanger, à avoir des réflexions féministes sur différents thèmes. Et chaque année, on organisait un festival se retrouver et pour se rencontrer entre personnes qui n'étaient pas des hommes cis. C'est à cette occasion que j'ai pu contacter l'association Faire Face pour pouvoir organiser justement un stage d'autodéfense pendant ce festival. Et c'est là en fait que j'ai participé à mon premier stage d'autodéfense féministe. Et en fait, bah oui, pour moi, ça a été une révolution, quoi. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que bah là, il n'y avait pas de jugement. En fait, on était dans des échanges constructifs. On était avec des personnes qui vivaient ou qui ont vécu des situations similaires aux miennes. Il y avait beaucoup d'écoute. En gros, c'est là où j'ai pris conscience de l'aspect politique hyper fort de la pratique de l'autodéfense. C'est ça qui m'a plu. Et aussi pris conscience de la dimension structurelle des violences dans un système patriarcal. Je pense que j'ai vécu une suite de situations sans savoir vraiment l'analyser. Et là, ça a été vraiment la révélation, on va dire. Donc j'ai refait le film de ma vie avec ce prisme et ça n'a pas toujours été facile. Voilà, ensuite, je suis allée faire un stage à Toulouse et c'est là où j'ai décidé de devenir formatrice à mon tour. Parce que voilà, ce que j'aime énormément dans cette pratique, c'est qu'il y a un côté global qui est hyper complet dans les techniques. Ça m'a vraiment beaucoup parlé. C'est une pratique intarissable. Il y a toujours des choses à apprendre largement, mais aussi sur moi, sur mon corps, mon mental. Et aussi, il y a beaucoup de possibilités d'exercer au quotidien. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup aussi.
Et justement, pour rentrer un peu plus dans le détail sans non plus en dévoiler trop, la pratique d'autodéfense que tu transmets comprend des techniques physiques et aussi des techniques verbales. Et donc, les deux, ça s'articule en fait dans l'autodéfense féministe.
Ouais, voilà, les deux, elles s'articulent, elles sont même indissociables. En fait, il y a toujours un peu de défense physique dans la défense verbale et inversement, en autodéfense verbale. C'est peut-être moins perceptible qu'en défense physique, mais il y a vraiment tout le corps est engagé. Pendant les stages, personnellement, je pense pour la plupart des formateuristes, il y a quand même une importance qu'on met sur la respiration, l'ancrage et la posture tout au long de l'atelier, qu'il soit un atelier de défense globale ou défense verbale. Pour moi, c'est vraiment les clés en fait pour pouvoir mieux accueillir aussi nos émotions, pouvoir faire baisser l'adrénaline, et pouvoir réagir. Il y a aussi, on en parle moins, mais le non-verbal, il y a une importance, parce qu'il va venir appuyer le message qu'on veut faire passer. Là encore, notre conditionnement, il vient souvent, malheureusement, nous mettre à défaut. Dans les stages, on prend souvent l'exemple du sourire réflexe qui peut trahir notre émotion. Cet exemple, il est parlant parce qu'on se rend compte que c'est très difficile de s'en dépêtrer, mais que c'est un travail nécessaire. J'avais aussi envie de dire par rapport à cette question particulièrement que quand on évoque les violences faites aux femmes, il y a la plupart des gens qui pensent uniquement à la violence physique. Et c'est aussi l'image, malheureusement, qui est relayée dans les films, les médias. On parle beaucoup moins des violences psychologiques et verbales qui sont associées. C'est moins connu, c'est moins mentionné. Et pourtant, voilà, on sait qu'elles existent et que ça fait partie d'un continuum, en fait, de violence. Donc, c'est aussi pour ça qu'en stage d'autodéfense, on propose des techniques qui vont pouvoir nous permettre de nous prémunir de toutes les formes de violence, qu'elles soient verbales, physiques, psychologiques. Donc, ce qui est pas évident, c'est déjà de reconnaître, en fait, à quel moment il y a une personne qui va transgresser notre limite. Ça demande à s'écouter soi et écouter un peu ce que dit notre corps et se faire confiance surtout. En stage, on va d'abord travailler sur des défenses physiques. En fait, quand on voit la défense physique et notamment les points vulnérables du corps, sans en dire trop, mais il y a beaucoup de réticence. En fait, c'est important justement de comprendre que, en tant que personne minorisée de genre, on nous a souvent mis et on nous met souvent en défaut sur nos capacités physiques. Et du coup, cet exercice-là, ça permet de reconnecter aussi avec nos possibles corporels. Et je trouve que c'est vraiment un enjeu de taille. On aime bien aussi rappeler que le fait d'avoir confiance en ses capacités physiques, ça va nous aider à avoir confiance dans notre défense verbale et ça va vraiment ensemble les deux. C'est aussi se dire que si jamais à un certain moment je vis une situation verbale qui dégénère, j'ai toujours une carte à jouer. J'ai toujours des outils voilà, que sous le coude pour m'en sortir. Ça peut donner de la confiance.
Ça me fait penser à une autre question que j'avais. Mais ça fait penser en fait à ce que dit Elsa Dorlin, une philosophe qui a beaucoup travaillé sur l'autodéfense féministe et qui la définit non pas comme un moyen d'apprendre à réagir, mais plutôt désapprendre à ne pas réagir. Tu as parlé par exemple du sourire réflexe, mais du coup voilà, c'est aussi se détacher d'un certain nombre de réflexes justement qui sont ancrés dans notre passé, notre éducation de femmes et personnes minorisées. Donc voilà, je pense que cette puissance d'agir aussi que tu as évoquée, c'est important dans l'apprentissage de l'autodéfense féministe.
Oui, oui, oui. J'aime beaucoup justement cette phrase d'Elsa Dorlin, parce que c'est parlant. On subit ce conditionnement quand on était socialisées comme des femmes depuis toujours. C'est très difficile de travailler là-dessus, mais c'est possible. Et c'est encore plus puissant quand on vit en groupe, d'où l'importance, d'où l'intérêt aussi de vivre ça en stage. C'est vrai que voilà, on est éduqué complètement à être dans le care, l'accueil, la bienveillance, tout ça, mais pas du tout à utiliser nos jambes, nos bras, nos poings, nos voix, pour pouvoir nous défendre. Dire aussi que utiliser les corps, nos corps, nos forces, malheureusement, ça a toujours été l'apanage des petits garçons et qui sont valorisés pour ça. C'est encore loin d'être le cas pour les filles. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident, parce que si nous on en prend conscience, c'est aussi tout un système en fait dans lequel on est, qu'il faut revoir, déconstruire, et c'est beaucoup de travail et c'est du courage aussi. Et c'est une fois de plus à nous de s'en saisir pour pouvoir en sortir. En fait, en stage, les réticences, elles sont là souvent, mais c'est hyper agréable de constater qu'au fur et à mesure de la journée ou du moment de stage, ça évolue. Il y a des choses qui se dénouent, qui se décrispent. C'est pas une baguette magique, mais en tout cas, on peut aussi libérer une légitimité, en fait, de se servir de son corps. Et voilà, semer des petites graines, en gros, qui feront peut-être leur chemin plus tard, et je l'espère toujours.
Au début, tu as parlé aussi de la rencontre autour de l'autodéfense féministe. C'est des pratiques, des stages qui créent aussi des espaces de sororité. Pour toi, ces espaces-là sont aussi des moyens de se défendre finalement ?
Oui, oui. En fait, quand on arrive en stage, on peut appréhender beaucoup parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas avec qui on sera, comment ça va se passer, tout ça. C'est vrai qu'en fait, juste créer ces espaces en non-mixité, sans homme cis, c'est vraiment créer des petites bulles de résistance. Enfin, moi, je le vois comme ça. Pour moi, c'est des espaces où on veut être. Enfin, on essaie de mettre un cadre le plus safe possible. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, pour moi, c'est des endroits d'échange, de rencontre, de prise de conscience qui sont parfois douloureuses, où on est là pour se soutenir. Il y a des personnes qui peuvent être très différentes sur un même atelier. C'est important de poser un cadre au début. Qui est d'accord pour tout le monde, qui est OK pour tout le monde. C'est un cadre qui permet de se sentir en confiance, de libérer la parole, pour dire, pouvoir faire et même ne pas faire. C'est cet espace en mixité. Ça nous permet aussi de pouvoir parler de la stratégie des agresseurs, s'organiser entre personnes qui subissent ces mêmes types de violences. Pour nous, ça permet de les repérer et puis de mettre en place notre propre défense. Les stages, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut être entre personnes, des femmes cis, trans, on peut être avec des personnes racisées, des personnes handy, grosses, de tout âge, toute culture, sexualité, et qui viennent de toute classe sociale confondue. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Je trouve ce qui est important, c'est les moments informels. Ça constitue le stage, en fait, et c'est propice à une réflexion personnel, qui peut être porté sur nos vécus, nos expériences, mais aussi sur tout ce qui est partagé par les personnes qui sont là et qui traversent ça aussi au quotidien. Pour moi, c'est on crée de la solidarité. C'est ça, en fait, qui est hyper précieux, quoi.
Tout à fait. Et donc, tu as créé l'association L'Échappée Belle, en Aveyron, qui lutte contre les violences de genre. Tu organises à travers cette association des stages d'autodéfense féministe aussi. Donc, quelles sont les difficultés ou les enjeux aussi de transmettre ces pratiques-là en milieu rural ?
Ce qui n'est pas évident en milieu rural, c'est de parler déjà des violences sexistes. Ça reste un sujet tabou. voilà, on entend souvent les personnes non, mais dire mais ça n'existe pas ici, dans notre beau vallon, qu'est-ce que c'est que ça. Enfin voilà, donc en fait, bosser sur ce thème, pour nous, c'est toujours lancer des pavés dans la mare. Le boulot, c'est vrai, pour nous, c'est de faire prendre conscience aux gens que, bah oui, en fait, ça existe ici. Et que, en plus, c'est loin d'être exceptionnel. Nous, à l'asso, l'Échappée Belle, on est une petite dizaine. Hein. On est deux salariés à mi-temps et puis quelques bénévoles. Notre boulot, c'est de mettre en place plusieurs choses. Autant de l'entretien individuel, de l'écoute, mais aussi donc des ateliers collectifs dont font partie les stages. Et le troisième axe qui est important pour nous, c'est la prévention. Prévention en milieu scolaire. Et ce qui est important, là, c'est de travailler au changement de mentalité. On part quand même de loin, on n'est pas forcément soutenu par les élus locaux. Donc le boulot, c'est vraiment de développer toutes ces choses-là pour faire parler des violences sexistes au plus grand nombre. L'autodéfense féministe, dans ce cadre, c'est vrai que c'est pas du tout connu, enfin, c'est pas très bien compris ou connu dans les ruralités ici, là moi où je vis, donc dans le Nord Aveyron. Donc, dès qu'on en a l'occasion, en gros, hein, que ce soit sur les stands d'info ou ça peut être dans les soirées qu'on organise, voilà, ou même comme ça, en faisant du un pour un, on essaie de toujours de caser des petites discussions sur, bah voilà, qu'est-ce que c'est l'autodéfense féministe, qu'est-ce qu'on y travaille, comment ça s'organise. Surtout, on invite pas mal les gens à venir pratiquer. Et aussi, par rapport à ça, à la communication de ces stages, ce qui est pas évident, c'est le langage qu'on utilise, la communication. C'est hyper important et c'est pas vraiment loin d'être simple. C'est-à-dire que nous, bah, parfois, au lieu de mettre stage d'autodéfense féministe, pour pas faire peur, on va mettre stage de prévention des violences. On se pose beaucoup de questions de qu'est-ce qu'on met ou pas sur le tract. On a peur de perdre la moitié des gens si on met féministe. On a peur de perdre l'autre moitié si on met en mixité non choisie sans homme cis. Enfin, ça a été assez complexe. Au début, dans les stages, il n'y avait que des copines. Et finalement, maintenant, là, le dernier stage en date, je connaissais personne. Donc, c'était super. Et c'est vrai que là, ça fait 3 ans qu'on existe avec l'Échappée. Et maintenant, ça y est, quoi. Quand on fait une com sur les stages,
ça marche mieux.
Ouais, ça marche mieux. Puis on met tout, en fait. On met tout ce qu'on voulait mettre sur le tract en expliquant, en fait. En essayant de mettre, même s'il faut une deuxième feuille, mais d'expliquer pourquoi sans homme cis. Voilà, d'expliquer ensuite pendant le stage pourquoi on considère que, bah voilà, qu'on est féministe et pourquoi c'est important pour nous de le dire, quoi.
Oui, bah c'est important, ça montre aussi que le travail que vous faites avec d'autres associations, bien sûr aussi, mais ça sème des petites graines, comme tu disais tout à l'heure.
Ouais. Oui, complètement. Ouais. Et puis c'est, parce qu'avec l'asso, comme on est sur différents pôles, on ne fait pas que de l'autodéfense féministe, donc y a des choses qui vont être plus abordables, on va dire, pour le public. Ça nous permet, nous, d'aller ensuite discuter plus particulièrement de l'autodéfense. Ça fait partie d'un tout, on va dire, l'autodéfense.
Oui, et avant de conclure, alors je sais que les stages sont souvent complets très vite, mais est-ce que tu veux annoncer les prochaines dates ou alors d'autres actualités de l'association L'Échappée Belle ?
En fait, avec L'Échappée, là, on organise un cycle de stages et d'ateliers, en fait, de groupes de parole, on va dire. On organise ça à Marciac-Vallon, puisqu'on est basé là-bas, hein. On organise donc 6 ateliers d'autodéfense proposés en alternance avec 5 groupes de parole. À partir du 9 octobre, vous pourrez retrouver peut-être les infos parce qu'en fait, ça va être des stages à thème. Pour chaque groupe de parole, il y aura un thème. Pour chaque atelier d'autodéfense, il y a un thème. On n'est pas obligé de participer à tout. On peut choisir. C'est un peu à la carte, en fait. C'est gratuit. Voilà. C'est des ateliers de 2 heures, 2-3 heures, en fait. Donc, c'est pas hyper engageant. Ça permet de se faire une idée.
Super, merci beaucoup Jo. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Non, en fait, si, il y a quelque chose qui me... Voilà, que j'avais peut-être envie d'ajouter quand même, c'est qu'on travaille aussi avec des ados, en autodéfense. Voilà, et en fait, c'est vrai que travailler avec des jeunes, c'est se rendre compte aussi que les choses, elles bougent. Voilà, elles bougent doucement peut-être, mais c'est vraiment en mouvement. Moi, c'est ça qui me porte pas mal, en fait. C'est de voir que le féminisme, je trouve que avec les années et avec les différentes réflexions qu'il y a eu ces derniers temps. Il prend de plus en plus de forme et c'est tant mieux. Et voilà, quand je vois les jeunes se saisir de ça, ça me fait vraiment plaisir. Et je me rends compte aussi dans les stages jeunes qu'il y a beaucoup, enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de freins pour les jeunes, pour réagir, pour mettre en place des défenses, leurs défenses, avec même souvent leurs propres techniques. Et en fait, pour moi, c'est hyper porteur d'espoir. Donc voilà.
Eh ben, on peut conclure sur cette belle note d'espoir. Merci beaucoup, Jo. Et donc, je rappelle l'association donc L'Échappée Belle d'entraide et de lutte face aux violences sexistes pour les femmes et minorités de genre, qui est active à Nord-Aveyron, mais pas que, un peu partout dans le département aussi.
Merci à vous.
C'était Jo, donc comme vous l'avez entendu, sur l'actuel, sur Radio Larzac.
Super, et magnifique cette interview, j'adore écouter Jo.
Oui, on la salue d'ailleurs si elle nous écoute. Et je rappelle donc, comme elle disait, que si vous souhaitez vous initier à l'autodéfense, eh bien L'Échappée Belle propose un cycle d'ateliers et de groupes de parole à partir de lundi prochain, le 9 octobre, de 18h30 à 21h. Ce sera l'horaire du premier atelier et ça se passe à la cité Beau Soleil à Marcillac-Vallon, donc pas très loin de Rodez. Le premier atelier s'appelle « Reconnaître son espace de confort et poser sa limite de manière claire ». C'est gratuit et pour toutes les infos et pour vous inscrire, rendez-vous sur la page Facebook L'Échappée Belle.
Trop bien.
Yes.
Et maintenant, on va écouter une musique. Oui, j'ai sélectionné une artiste qui est plutôt... c'est pas vraiment une artiste en fait. C'est une femme presque mythologique, mais qui a vraiment existé. Qui a existé en 1895 à peu près au Maroc. Et qui s'est soulevée contre le caïd, donc contre son autoritarisme de l'époque où il torturait des gens, enfin voilà. Et en plus de ça, elle était en fait antipatriarcale. Et elle se promenait sur le territoire marocain et elle chantait des chansons de lutte contre le pouvoir et contre le patriarcat. Et voilà, et je vous laisse découvrir.
وتخلي عليه بالتجاني سيدي احمد نور
C'était donc une musique choisie par Carole.
Oui, j'ai oublié de la citer, j'ai l'impression. Donc c'est Karboutcha, donc une femme dans les années 1895 au Maroc qui s'est soulevée contre le caïd et contre le patriarcat avec sa musique et ses chants populaires et qui est maintenant un mythe. Et alors, par contre, je dois vous révéler la triste fin de Karboutcha. Elle a été kidnappée par le caïd et a été emmurée vivante. Voilà ce qui se passe quand on se soulève contre eux. Le grand patriarche du Maroc.
Et oui, mais en tout cas, c'est beau qu'on puisse toujours écouter ces musiques.
Tout à fait.
Sur Internet. Et puis, bien, Carole, pour arriver doucement à la fin de cette émission, tu as préparé une chronique. Et ça tombe bien parce qu'on a aussi parlé d'autodéfense pour ados avec Jo. Donc,
tout
je
à
pense
fait.
Que ça rentre dans ce thème.
Exactement. Au planning familial de Millau, cette BD elle est dans les étagères, mais elle est tellement précieuse qu'on ne peut que la consulter sur place. Elle s'appelle Basta, c'est un guide d'autodéfense féministe pour ados et pas que. Comme le dit si bien le titre, choisi par Marion Lemusique, la scénariste, tous les âges se prennent une leçon de féminisme pratique qui nous sert enfin au quotidien. Quand on ferme cette BD, qu'on a lue en un éclair, notre torse est bombé et on se sent fraîche et sécure pour flâner dans nos univers sexistes et violents. Tranquille les meufs, oui, on le saura vraiment. Je vous entends venir, alors, une technique d'autodéfense magique s'il te plaît ? D'accord, j'arrive. Il y a une technique d'autodéfense verbale qui est fonctionnelle dans beaucoup de situations diverses, de l'agression de rue par un inconnu à l'agression de salon par une personne avec qui on relationne. C'est la technique des trois phrases. Pour cela, on va prendre un exemple tiré du livre qui m'est arrivé à moi aussi, plusieurs fois, et j'imagine à vous aussi, tellement c'est commun. Alors j'avais 19 ans et j'étais tombée follement amoureuse d'un garçon doux, musicien et philosophe. Et pourtant, on n'avait pas encore eu de rapport sexuel, je n'étais pas prête. Il a insisté, il m'a fait culpabiliser et quelque chose s'est brisé à jamais ce jour-là. J'aurais aimé avoir cette technique dans ma poche. Alors avant toute chose, avant de la pratiquer, il faut se gonfler à bloc et puis il va falloir sortir trois phrases consécutives en essayant de ne pas sourciller. Et la première, tu décris objectivement et simplement la situation. Dans ce cas, on pourrait dire « Tu veux que j'accepte de coucher avec toi alors que je n'en ai pas envie, que je ne me sens pas prête, juste pour te satisfaire. » Ou « Tu me dis que tu ne sais pas combien de temps tu vas pouvoir tenir si je ne fais pas l'amour avec toi. » Après, directement, tu enchaînes avec la deuxième phrase. Tu dis ce que ça te fait, ce que tu ressens. Par exemple, « Je ne me sens pas respectée. » Ou pour ma part, « Ça me rappelle les violences sexuelles que j'ai subies avant toi, ça me terrorise. » Et enfin, là, la troisième phrase, tu lui dis ce que tu souhaites, qui se passe, en formulant un ordre. C'est très important que ce soit un ordre. Arrête d'insister pour qu'on couche ensemble ou je veux que tu attendes que je sois prête pour avoir plus d'intimité avec toi ou celle que j'aurais choisie tellement j'ai été déçue de son comportement. Je veux que tu te casses de ma vie et ne plus jamais rien savoir de toi, bouffon. Voilà. Alors, ça paraît un peu facile à dire comme ça, évidemment. Mais l'idée, c'est de s'entraîner dans sa tête, avec des situations qu'on a déjà vécues. Comme ça, ça facilite les choses et au bout d'un moment, ça vient tout seul. Et une fois que ça arrive tout seul dans une situation qu'on vit vraiment, eh ben on se sent enfin forte et libre. C'est pour ça que j'adore cette BD. C'est un vrai manuel efficace et les dessins de Maria Kronsky sont réalistes, jolis et inclusifs. Donc je vous recommande de la lire chaudement. J'imagine que Sophia aussi. Et vraiment, ça va vraiment vous servir, foncez.
Merci Carole. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. Avant de conclure, on peut dire aussi que le planning familial va organiser un stage d'autodéfense féministe.
Tout à fait. Alors, il y en a un qui s'est organisé cette année et qui est gratuit pour nos bénévoles et complet malheureusement. Mais l'idée, c'est que ça se reproduise l'année prochaine. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à ce type de stage via le planning familial, il faut adhérer. Et pourquoi pas être bénévole, ça serait chouette pour nous.
Et vous pouvez aussi adhérer en ligne, donc à l'antenne de l'Aveyron.
Tout à fait.
Et puis, on peut aussi citer quelques associations d'autodéfense féministe dans le sud de la France. Donc, il y a à Montpellier, Lorelai, qui organise d'ailleurs un stage le 14 et 15 octobre à Montpellier. Il y a un formulaire d'inscription sur leur site. Ensuite, il y a Faire Face à Toulouse, dont on a déjà parlé, qui organise aussi des stages pour étudiantes, en collaboration avec le CROUS. Donc, si vous êtes étudiant ou étudiante, vous pouvez vous adresser à Faire Face. Et puis, à Marseille, on a ARCAF et à Valence, on a Titane. Vous pouvez trouver facilement les sites internet.
Et alors, il y a d'autres ressources, comme le livre d'Elsa Dorlin, qui est une petite pépite qui s'appelle Se défendre, et qui parle des luttes féministes et de la place de l'autodéfense dans ces luttes-là aussi. Et il y a Non, c'est non d'Irène Zellinger, qui est la grande gourou de l'autoféminisme en Europe francophone. Et qui a ramené ça en Belgique et qui travaille à l'association Garance, qui est aussi très réputée.
Oui, et je vous recommande vraiment le livre d'Elsa Dorlin. Alors, c'est un traité philosophique, mais franchement, il est accessible.
Oui.
Et après, il y a aussi Pour l'autodéfense féministe de Mathilde Bléza.
Tout à fait.
Et il y a aussi deux épisodes dans Podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. Il y en a un qui s'appelle Les femmes contre-attaquent et l'autre un peu plus récent qui s'appelle L'autodéfense des enfants. Parce qu'il y a aussi, comme on l'a vu, des stages d'autodéfense pour mineurs et pour ados.
Tout à fait, ça fonctionne très bien. Dans le village où je faisais mes cours d'autodéfense, il y avait aussi pour les enfants. Et il n'était pas rare de croiser un enfant qui dise « Non, tu ne peux pas me toucher là, tu n'as pas mon consentement.
» Super. Eh bien, merci beaucoup, Carole.
Merci à toi, Sophia.
On se retrouve bientôt. Et puis, merci à Nico, à la technique. Et merci à Jo, que nous avons interrogé tout à l'heure. Cette émission est rediffusée vendredi à 19h. Elle est aussi un podcast sur radiolarzac.org. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Bonne écoute.